France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'instauration d'un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à la protection universelle maladie, mais aussi la mise en place de quotas d'immigration économique. Voici quelques-unes des mesures qu'Édouard Philippe dévoilera demain à l'issue d'un comité interministériel sur l'immigration, mais dont certaines ont déjà fuité ce matin.
Dans votre journal également, Thomas, une profonde émotion mêlée de cris de colère.
Oui, plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage ce matin aux 8 morts dans l'effondrement de 2 immeubles il y a 1 an à Marseille. Un drame qui aura mis au jour le fléau, toujours d'actualité, de l'habitat insalubre. Sous l'effet d'une guerre qui empire au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les troupes étrangères au Sahel présentes pour combattre la prolifération des milices et des groupes djihadistes font face à un rejet apparemment grandissant à présent chez les habitants. Enfin, l'Allemagne a donné hier le coup d'envoi des célébrations marquant le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, dans une atmosphère pesante marquée tout à la fois par un parfum de retour de la guerre froide, mais aussi la montée des nationalismes. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et avec un coup de barre, le coup de barre judiciaire de la chroniqueuse du Canard Enchaîné, Dominique Simoneau, qui publie au Seuil un livre sur les inégalités au cœur de la justice aujourd'hui, et notamment à travers les comparutions immédiates, une justice à 2 vitesses. On en parlera avec elle dans la deuxième partie de la grande table.
Merci et à tout à l'heure. S'il fallait encore se convaincre de ce que la question migratoire ne saurait décidément dépasser les clivages droite-gauche, les réactions ce matin aux mesures que le gouvernement est censé présenter demain, mais dont il a en partie dévoilé la teneur hier soir, devrait suffire. Quand la droite salue ses annonces, même si elle les juge encore insuffisantes, à gauche, des voix s'élèvent contre une instrumentalisation de ce thème de l'immigration pour détourner, en somme, les Français des préoccupations sociales. Alors de quoi parle-t-on? D'un délai de carence pour l'accès à la sécu des demandeurs d'asile, mais aussi de quotas d'immigrés professionnels. Autant de décisions qui ne seront donc officiellement dévoilées que demain, mais qui viennent surtout ponctuer en réalité une longue séquence voulue par l'exécutif, manifestement désireux de ne pas laisser ce thème à la droite et à l'extrême droite dans la perspective des échéances électorales à venir. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors on se souvient qu'en vue du débat sur l'immigration, c'était fin septembre, Emmanuel Macron avait déjà à l'époque demandé à sa majorité de, je cite, dépasser les clivages et les tabous. On ne sera donc pas franchement surpris par la nature de ces annonces. En revanche, on se souvient, Anne, aussi qu'une loi sur l'immigration avait déjà été votée en 2018. N'était-elle pas suffisante?
Eh bien, nous avons posé la question, Thomas, à Élise Fagelès. Elle est l'ex-rapporteure de cette loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, mais aussi la référente de ces questions au sein du mouvement La République En Marche. Élise Fagelès explique qu'en septembre 2018, il y avait déjà fort à faire sur les sujets relevant strictement du ministère de l'Intérieur.
On avait vraiment une priorité de faire en sorte que sur la demande d'asile, ça puisse être beaucoup plus fluide et donc améliorer les délais. 2, donc le délai de traitement de la demande. 2, améliorer la reconduite, parce qu'on était à un taux qui était vraiment, en termes d'application des OQTF, qui n'était pas du tout raisonnable en termes d'application de la loi. Et 3, de permettre des mesures d'intégration qui venaient du plan d'Aurélien Taché, qui n'avait pas, sur l'intégration, on n'y avait pas travaillé depuis des années dans notre pays. Donc, compte tenu du nombre d'augmentation des réfugiés, ça nécessitait quand même qu'on puisse y travailler. Donc ça, c'était l'objectif. C'était du régalien. Tout ce qui était strictement économique ou de l'ordre de la santé, il faut, je pense, prendre le temps d'avoir des sujets qui sont travaillés avec des spécialistes de tels sujets. Bon, bah maintenant, on est en capacité d'avoir des propositions là-dessus.
Voilà une marche supplémentaire que la ministre de la Santé Agnès Buzyn est obligée de franchir en se penchant sur de nouvelles conditions d'accès à la protection universelle maladie pour les demandeurs d'asile. Et puis, au ministère du Travail, Muriel Pénicaud parlait ce matin sur BFM pour la première fois de quotas.
L'idée, c'est d'avoir des objectifs chiffrés ou des quotas, ça c'est une question de sémantique, mais où on va travailler avec les partenaires sociaux, avec les régions, avec Pôle emploi, en disant, on manque de couvreurs là, de géomètres là, et on n'arrive pas à les pourvoir, même malgré la formation. Et donc, à ce moment-là, le temps qu'on n'arrive pas à les pourvoir, on peut accepter une immigration professionnelle.
Et la nouveauté de cette immigration professionnelle, c'est que ces quotas seront réévalués chaque année par le Parlement.
Merci Anne Fauquemberg. Renforcer les efforts pour les écoles des quartiers défavorisés et en confier la gestion au recteur. Voilà peu ou prou les nouvelles orientations envisagées pour repenser cette fois-ci la politique d'éducation prioritaire. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
À l'occasion de la remise donc aujourd'hui d'un rapport commandé il y a un an à l'universitaire Pierre Mathiot et à l'inspectrice générale Ariane Azéma, le gouvernement doit donc dévoiler cet après-midi ses pistes pour réduire les écarts scolaires liés aux origines sociales des élèves. Or, quand bien même aucune annonce ne devrait être faite avant les municipales sur ce sujet sensible, eh bien, on connaît d'ores et déjà, Hakim, certaines des préconisations pour aider donc les écoles de ces quartiers très défavorisés.
Et oui, la plus emblématique d'entre elles consiste à décentraliser l'éducation prioritaire, c'est-à-dire que les moyens supplémentaires ne seraient plus alloués par l'État, mais confiés directement à chaque rectorat qui détermineront eux-mêmes, localement, les écoles à soutenir et surtout à quel niveau, mais aussi celles qui pourraient rentrer, sortir ou revenir en zone d'éducation prioritaire, ce qui fait craindre dans les établissements concernés un désengagement de la part du ministère, mais aussi à ce que les moyens ne soient pas alloués de la même manière et surtout mis ailleurs. Stéphane Crochet, secrétaire général du SE UNSA.
Aujourd'hui, on a deux types d'éducation prioritaire. On a l'éducation prioritaire renforcée, REP+, qui resterait nationale. Puis on a l'éducation prioritaire qui, elle, selon ce que l'on sait du rapport, serait à la main des recteurs. Aujourd'hui, c'est une carte nationale. Donc demain, nous risquerions de voir ces moyens se diluer sous la pression des demandes locales, de ne plus avoir l'établissement d'une carte nationale et finalement que ces moyens soit dilué et disparaissent petit à petit, parce qu'il peut y avoir dans les territoires d'autres urgences.
Le rapport préconise aussi une meilleure formation des enseignants. Elle ne représente aujourd'hui que 0,4% du budget total des REP, qui est de 1,7 milliard d'euros, avec une certification spécifique aussi en fonction des publics reçus par les enseignants, allophones, classes à âge multiple. Enfin, il suggère aussi des primes à la mobilité pour inciter les enseignants à rester au moins 5 ans, par exemple en zone rurale, mais aussi dans les villes intermédiaires, qui sont parfois moins attractives en termes de postulation de postes que les grandes métropoles.
Merci Hakim Kasmi. Au 63 et 65 de la rue de Bagne, la plaie béante à ciel ouvert est toujours là pour rappeler le drame. L'effondrement, c'est il y a un an, jour pour jour, en plein cœur de Marseille, de deux immeubles insalubres dans lequel 8 personnes avaient trouvé la mort. Ce matin, à 9h05 précise, sous une banderole ni oubli ni pardon, un demi-millier de personnes ont observé 8 minutes de silence en hommage à ces 8 victimes de l'habitat insalubre qui gangrène toujours la cité phocéenne. De son côté, le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, dont la gestion de la crise et des problèmes d'habitat a été étriée depuis ces effondrements, s'est lui recueilli séparément, retranché derrière les murs de l'hôtel de ville et les barrières qui l'entourent à 1 kilomètre seulement de là. Alors un an après la catastrophe, où en est l'enquête? Quand saurons-nous qui est responsable de l'effondrement donc de ces deux immeubles? Pour l'heure, Laurent Grollet, l'enquête reste toujours inachevée.
L'enquête diligentée il y a un an va effectivement encore prendre du temps et les conclusions des 3 juges missionnés pour faire toute la lumière sur cette catastrophe ne pourront pas être rendues avant le 30 mars prochain. Pourquoi ? Parce que c'est la date à laquelle un premier rapport d'expertise sera dévoilé. Autrement dit, il faudra encore s'armer de patience avant de connaître la vérité sur l'effondrement de ces 3 immeubles. Il y a quelques jours encore, les familles de victimes et autres associations qui luttent pour connaître la vérité ont été reçues par les juges. Elles n'ont pas plus d'explications. Au lendemain des effondrements, on se souvient de ces perquisitions opérées au siège du service de l'urbanisme de la ville, ainsi qu'au siège de Marseille Habitat, le bailleur social. Car un an après, c'est toujours cette question qui hante les victimes et une grande partie des habitants de la ville. Lequel des numéros 63 propriétés de la ville ou du 65 immeuble privé a entraîné la chute de l'autre? C'est de cette conclusion que découleront des procédures d'indemnisation qui s'annoncent elles aussi assez longues.
L'Assemblée nationale a adopté dans la nuit le projet de budget 2020 relevant du ministère de la Transition écologique. Un budget en hausse de 2,6%, s'est félicité la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon, mais loin, très loin d'être à la hauteur des enjeux entonnés pour leur part plusieurs députés de l'opposition, de droite comme de gauche d'ailleurs, et qui face à une souris verte tirant le diable par la queue dénoncent un saupoudrage de mesures écologiques, voire une insulte à notre avenir. Après des accusations d'attouchement et de harcèlement sexuel de l'actrice Adèle Haenel alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans à l'encontre de Christophe Ruggia, La société des réalisateurs de films a annoncé hier avoir décidé de radier de ses membres le réalisateur. Cécile Le Carvez-Douai, bonjour.
Bonjour.
Suite à l'enquête parue dans Mediapart, la SRF dit exprimer son soutien total, mais aussi son admiration, sa reconnaissance à la comédienne. Il n'en reste pas moins, Cécile, que cette radiation donc de Christophe Ruggia, lequel réfute lui catégoriquement avoir exercé un harcèlement quelconque, suscite de très nombreuses questions.
Oui, et la première, bien, c'est la question de l'absence de plainte. La comédienne, qui dans l'enquête très circonstanciée de Mediapart raconte les attouchements et abus sexuels subis par le réalisateur âgé alors de 36 ans, alors qu'elle n'avait elle que 12 ans, refuse de porter plainte. Car elle ne fait pas confiance, dit-elle, à la justice qui condamne trop peu les agresseurs. Elle préfère donc susciter un débat public sur la culture du viol dans notre pays. Et effectivement, à regarder les statistiques du ministère de la Justice, le nombre de condamnations pour viol a diminué de 40% depuis 2007, alors même que le nombre de dépôts de plaintes pour viol a lui augmenté de 40%. Dans un pays où une femme sur cinq est victime de viol, la justice ne condamne qu'un viol sur 100, s'indigne Adèle Haenel. Elle raconte le long cheminement qui lui a fait prendre conscience, notamment à la suite d'un documentaire de la pédocriminalité du chanteur Michael Jackson, que la relation d'amour que le réalisateur Christophe Ruggia lui vantait était finalement une relation de pédophilie. Et elle dénonce l'indifférence du milieu du cinéma, car Mediapart est allé à la rencontre des adultes présents lors du tournage et des voyages de promotion du film. Une trentaine de personnes racontent que ces attouchements étaient connus. Entre nous, on se disait que quelque chose n'était pas normal, qu'il y avait un souci, raconte par exemple un technicien de régie. On dit souvent des metteurs en scène qu'ils doivent être amoureux de leurs actrices, mais Adèle avait 12 ans. La question aussi de la toute-puissance du réalisateur sur un tournage est soulevée par tous ces professionnels du cinéma, ainsi que la question du film coûte que coûte. Et il y a en creux cette question de la différence essentielle qu'il faut faire, selon Adèle Haenel, entre l'homme et l'artiste. Car ne pas faire cette différence, explique-t-elle, c'est justifier tous les abus. Adèle Haenel dénonce aussi le silence durant des années de la Société des réalisateurs français, dont Christophe Ruggia était président jusqu'au mois de juin dernier. Quant au réalisateur, eh bien, il réfute ces accusations. Qu'il y ait une emprise involontaire de l'adulte metteur en scène, c'est probable, dit-il, mais il nie catégoriquement les attouchements et le harcèlement sexuel.
Merci Cécile Le Carvez-Douai. Parce que c'est une véritable gangrène qui se développe aujourd'hui dans les dunes du Sahara, au point non seulement de porter atteinte à la paix, mais aussi de voir chaque jour grandir la menace que cette zone poreuse ne devienne le prochain terrain de repli des djihadistes de l'organisation État islamique. Rarement, la réunion à Ouagadougou ce mardi du Conseil des ministres du G5 Sahel n'aura paru aussi urgente. Hier, 5 gendarmes et au moins 5 civils ont encore été tués dans le nord du Burkina Faso, une nouvelle attaque meurtrière qui intervient au lendemain de l'assassinat d'un élu tué en même temps que 3 autres personnes. Samedi, c'est un militaire français qui avait lui déjà rejoint cette liste funeste après que son blindé eut sauté sur un engin explosif au Mali. Le même jour, 2 autres militaires tombaient les armes à la main. Enfin, vendredi dernier, 49 soldats maliens avaient également trouvé la mort dans le Grand Sahara lors d'une attaque revendiquée par Daesh. Ou quand l'épicentre des violences qui déchirent le Mali depuis 2012 résonne désormais bien au-delà des frontières du pays. Le Burkina donc, mais aussi le Niger sont pris dans cette même spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres à Daesh, et où s'enchevêtrent à la fois opérations militaires et violences intercommunautaires. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez justement, Claude, du Burkina Faso. Dans toutes ces zones, on retrouve au fond les mêmes ingrédients. Un État faible, une armée locale impuissante, des populations livrées à elles-mêmes et l'appui, la prolifération donc de milices et de groupes djihadistes. Et pourtant, il existe aujourd'hui sur place une importante présence militaire, que ce soit l'armée malienne, burkinabé, mais également la force française Barkhane, sans oublier évidemment les soldats de la MINUSMA, la force militaire de l'ONU. Comment dès lors expliquer, Claude, que toutes ces forces soient visiblement incapables de chasser les djihadistes de la région?
Oui Thomas, ces forces, elles ont l'air nombreuses. Vous parliez au Mali de la MINUSMA, ce sont 13 000 personnes, certes, mais les forces françaises de Barkhane, elles, ce sont 4 500 soldats pour tout le Sahel, un territoire plus grand que l'Europe, une goutte d'eau en fait. Alors au Burkina, ce que la population constate, c'est que les attaques, elles ont lieu chaque jour désormais, alors qu'il y a à Ouagadougou des forces spéciales françaises qui sont déployées là depuis l'enlèvement des otages d'Arlit il y a 10 ans. Et face à l'absence de résultats, eh bien les gens s'interrogent sur cette présence. Ces forces sont en fait perçues comme des armées d'occupation, principalement destinées à préserver les intérêts occidentaux, notamment en termes d'accès aux ressources minières. Ces forces, elles sont aussi aussi perçus comme des soutiens à des régimes conspués, comme celui de Blaise Compaoré, renversé par la rue en 2014 après 27 ans de règne sans partage. Alors ça explique par exemple pourquoi le nouveau pouvoir en place au Burkina hésite à faire officiellement appel à l'armée française pour appuyer massivement l'armée burkinabé sur le terrain. Or, les populations, elles sont partagées entre panique et colère face à la puissance des djihadistes, car oui, c'est vrai, ce sont les djihadistes qui aujourd'hui ont la main sur ce conflit, eux qui lancent les attaques, eux qui sont à l'initiative, eux qui ont aussi une intelligence plus fine des terrains qu'ils arrivent à conquérir en jouant sur les revendications territoriales des populations qui sont méprisées par les États centraux, délaissées par le développement, et c'est là qu'on touche une énorme partie du problème, la corruption qui détourne massivement l'aide au développement censée accompagner cette lutte militaire antiterroriste au Sahel. Les populations ne voient quasiment pas la concrétisation de ces sommes promises au développement. Or, face à un ennemi invisible, la lutte ne peut se faire sans le soutien des populations. Mais les populations n'ont plus confiance du tout dans les États, jugés incapables d'assurer leur développement et leur sécurité.
Merci Claude Guibal. Emmanuel Macron a appelé ce matin la Chine à consolider l'ouverture de son immense marché aux entreprises étrangères et à coopérer avec l'Union européenne, premier partenaire économique de Pékin, pour lutter contre les tentations unilatérales. Sans nommer son homologue américain Donald Trump, le président français a notamment dénoncé le recours à l'arme tarifaire et à la loi du plus fort. De leur côté, et à en croire le Financial Times, les États-Unis envisageraient de supprimer les droits de douane de 15% instaurés en septembre dernier sur certains produits d'importation chinoise, une concession qu'effectuerait Washington dans l'optique de conclure un accord commercial partiel avec Pékin. Enfin, l'Inde, inquiète de l'arrivée massive sur son sol de produits chinois, a elle annoncé hier qu'elle ne rejoindrait pas le gigantesque traité de libre-échange Asie-Pacifique promu par Pékin. New Delhi explique ne pas avoir obtenu de garantie douanière suffisante pour protéger son marché intérieur. La lettre était attendue depuis 2017 déjà, mais ne pouvait être envoyée jusqu'à présent pour des raisons juridiques. Le gouvernement américain a officiellement informé hier les Nations Unies de sa décision de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Cette étape est la première d'un processus de retrait donc qui devrait durer un an et s'achever le 4 novembre 2020, c'est-à-dire au lendemain de la prochaine élection présidentielle américaine. Le cas échéant, les États-Unis, premier pays émetteur de gaz à effet de serre dans le monde devant la Chine, deviendront donc le seul pays à ne pas faire partie de ce pacte planétaire. Précisons toutefois que la décision de Donald Trump n'a pas créé l'effet domino que certains craignaient dans des pays comme l'Australie et le Brésil. Et puis, elle a même galvanisé de multiples acteurs américains non fédéraux, en l'occurrence des États gouvernés par la démocrate, des villes, des entreprises qui se sont engagées à la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui devrait compenser en partie du moins l'inaction fédérale. Enfin, toujours aux États-Unis, l'enquête dite russe n'a pas fini d'inquiéter Donald Trump. Aujourd'hui, l'un de ses anciens proches conseillers doit être jugé à Washington. Son nom, Roger Stone, cet ami de longue date du milliardaire, avait été arrêté dans le cadre de cette affaire tentaculaire autour de soupçons de collusion entre l'équipe du candidat républicain et la Russie durant la dernière campagne présidentielle. Ses liens en particulier avec WikiLeaks, qui avait diffusé des messages piratés du camp démocrate, interrogent. Une correspondance à New York signée Loïc Loury.
« Je ne témoignerai jamais contre Trump », affirmait Roger Stone l'an dernier. « Sympa de voir que certains ont toujours du cran », lui avait répondu l'intéressé. Entre les deux hommes, les relations s'étalent sur des décennies. Roger Stone, dès la fin des années 90, lui suggérait déjà de viser la Maison Blanche. Ce conseiller de l'ombre qui a servi à Nixon ou Reagan, spécialiste autoproclamé des coups fourrés, pourrait donc tout faire pour éviter de mouiller son président. Mais la partie sera serrée tant les charges sont lourdes. Cette chef d'accusation dont entrave à la justice, faux témoignages et subornation de témoins. Lors de la dernière campagne, le site WikiLeaks avait publié des messages privés du camp démocrate, manœuvre qui avait plombé Hillary Clinton. Roger Stone aurait facilité les échanges avec l'organisation de Julian Assange. Le conseiller en effet semblait avoir une longueur d'avance sur la publication des fameux messages piratés et pire, il s'en serait vanté à plusieurs reprises. Depuis, Roger Stone, également accusé d'avoir ensuite œuvré pour étouffer l'affaire, a largement revu sa version. Il affirme ne pas être au courant du rôle de hacker russe dans le piratage des démocrates. Aujourd'hui, il risque jusqu'à 20 ans de prison.
L'Allemagne a donné hier le coup d'envoi des célébrations marquant le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. L'occasion de se pencher aujourd'hui sur la tentation de réécrire cette page d'histoire en Allemagne, mais aussi en Hongrie, en Pologne ou bien encore en Roumanie. Voilà plusieurs années déjà que des partis, des gouvernements promeuvent en effet une relecture des événements qui leur permet de prospérer aujourd'hui politiquement. Et pour en parler avec nous en studio aujourd'hui, Marie-Pierre Véraud et Louise Baudet de la rédaction internationale. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Thomas.
Alors pour évoquer tout à la fois donc cette captation d'héritage, ce passé souvent revisité, cette mémoire également instrumentalisée, direction tout d'abord l'Allemagne avec vous Louise, l'Allemagne où l'extrême droite se présente aujourd'hui comme l'héritière de cet élan libérateur de l'automne 89 en RDA.
Oui, l'AfD qui s'enracine dans les Länder de l'Est, en Thuringe, dans le Brandebourg, la Saxe, l'AfD qui braque littéralement le mur, s'appropriant les thèmes et les slogans des manifestants d'il y a 30 ans. Emmanuel Droit est professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg.
L'utilisation de la notion de peuple renvoie aux manifestations de l'automne 1989 lorsque des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est sont descendus pour dire que nous sommes le peuple, mais le peuple au sens de demos, c'est-à-dire de communauté de citoyens revendiquant un droit à la participation au pouvoir politique, alors que aujourd'hui la notion de folk telle qu'elle est utilisée par l'AfD, la notion de peuple, elle renvoie au contraire à une vision ethno-raciste d'un peuple allemand homogène qui doit se protéger de l'invasion des réfugiés qui sont considérés comme un facteur d'insécurité.
Et l'instrumentalisation ne s'arrête pas là. 30 ans après la Wende, le tournant, l'AfD promet une Wende 2.0, rien de moins qu'une nouvelle révolution pacifique dans une Allemagne assimilée à la RDA finissante. Conditions de vie toujours inégales entre l'Est et l'Ouest, liberté d'expression toujours entravée quand on est militant de l'AfD. Cette lecture-là prospère sur le terreau fertile du désenchantement démocratique et économique. Bref, la révolution confisquée il y a 30 ans par les élites de l'Ouest, eh bien, il s'agit aujourd'hui de l'achever pour restaurer une fierté nationale blessée.
Et c'est encore la même logique donc à l'œuvre cette fois-ci en Pologne et en Hongrie, Marie-Pierre.
Et oui, parce qu'en 1989, finalement, nous dit le PiS polonais, il n'y a pas eu de vraie révolution. Alors effectivement, les accords de la table ronde ont permis une transition sans effusion de sang, mais du coup, le pouvoir actuel dénonce la collusion entre les héros de l'époque, Lech Walesa au premier chef, aujourd'hui d'ailleurs accusé d'avoir collaboré avec la police secrète, et les communistes. Écoutez, Piotr Gliński, ministre de la Culture et bras droit de Kaczyński, le patron du PiS, donc, du pays.
Il y a eu certes un changement de pouvoir, mais très cosmétique. Il n'y a pas eu pour ce pays de véritable chance de changer de civilisation. Les communistes ont passé un pacte avec la nouvelle élite. Ce qui a triomphé, c'est ce que l'on peut appeler aujourd'hui une approche libérale combinée avec l'approche post-communiste. Il y a eu à la fois la préservation des valeurs post-communistes, ce qui veut dire aucune valeur, le relativisme, mais surtout la captation de l'économie par les post-communistes en alliance avec les capitaux étrangers. Et ils ont eu suffisamment de pouvoir pour s'emparer de tout le pays.
Le PiS d'ailleurs mène une ambitieuse politique muséale pour rectifier cette histoire qu'il dit confisquée par les vainqueurs de 89. Et le pouvoir politique doit faire le ménage, décommuniser la justice par exemple. Il agite l'épouvantail communiste pour mettre la main sur les tribunaux, pour rogner l'indépendance des magistrats, tout comme il renforce sa mainmise sur les médias, reproduisant d'ailleurs de manière un peu ironique, Thomas, les méthodes de ces communistes. Tant haï.
Et c'est d'ailleurs dans ces conditions que les héros d'hier, dont Lech Walesa, ancien président, prix Nobel de la paix, sont donc traînés aujourd'hui dans la boue.
Oui, mais au moins Walesa existe encore dans les livres d'histoire polonais comme traître. Bronisław Geremek, lui qui a négocié la transition, disparaît, gommé peu à peu. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe en Hongrie, où Viktor Orban brouille le récit historique. La maison musée de la terreur à Budapest, qui présente les deux occupations, nazie puis stalinienne, en victimisant la Hongrie, occulte les conditions de la transition post-communiste pour faire émerger un véritable héros, Viktor Orban lui-même. Paul Gradvoil est historien à l'Université de Lorraine.
Il s'agit de discréditer systématiquement toutes les négociations qui ont amené au départ du pouvoir des communistes. Tous les dirigeants de l'époque, sauf les membres de la Fidesz qui sont exclus du processus historique, tous ceux-là sont critiqués parce que ce sont des traîtres. C'est une marginalisation dans le discours public. Ce sont des attaques politiques pour corruption et on évite de trop évoquer les conditions exactes de la façon dont les communistes ont abandonné le pouvoir en Hongrie parce que ça n'intéresse pas Orban que ce processus-là soit compris par qui que ce soit Il veut apparaître comme un phénix sortant de nulle part. Et donc, le mieux, c'est de carrément faire une politique du brouillard total. La vraie libération de la Hongrie arriverait de facto au milieu des années 2010, quand enfin Viktor Orban aurait réussi à façonner le pays à sa main.
Alors, il y a plus de pragmatisme chez Orban et moins d'idéologie que chez Kaczynski. Kaczynski est profondément la Russie de Poutine, qui est-elle alliée d'Orban, ce qui rend d'ailleurs plus délicate la réécriture de l'histoire à Budapest. Mais ce qui rapproche les deux capitales, c'est qu'il s'agit de recréer une identité nationale. Et cette politique visant à nommer de nouveaux ennemis, l'Europe par exemple, a pour terreau le mécontentement social issu de la thérapie de choc des années 90, politique ultralibérale, privatisation, qui ont marginalisé une bonne partie de la population.
Voilà, et puis ultime détour, donc Louise, par un pays où le rideau de fer s'est lui brutalement abattu, c'était un soir de Noël en direct ou presque sur les télés occidentales.
Oui, le 26 décembre 1989, le conducteur roumain Nicolae Ceausescu est fusillé au terme d'un simulacre de procès, épilogue glauque d'une révolution en trompe-l'œil orchestrée par les seconds couteaux du régime avec l'aide de Moscou. Et dans ces brumes historiques prospèrent de multiples lectures. Qui a fait la révolution en Roumanie? Adrian Cioianu est historien, ancien ministre, aujourd'hui ambassadeur à l'UNESCO.
Qui a fait les révolutions? Ce sont les socialistes qui disent, mais nous sommes ceux qui ont fait la révolution, parce qu'à l'époque, les socialistes ont été les seuls sur la scène politique. Tandis que les libéraux, ils disent, mais non, la révolution, c'est une question de libéralisme. Et donc, la révolution, l'intégration européenne, ce sont des choses qui nous appartiennent. Et bien sûr, ce sont les jeunes qui regardent vers d'autres partis, qui disent, écoutez, la vraie révolution signifierait de développer un mouvement écologique ou qui soutiendra la pluralité des comportements sexuels, par exemple. Donc, même le terme révolution est en dispute.
Une dispute féconde, selon Adrian Cioianu, dans un pays qui débat et se transforme 12 ans après son adhésion à l'Union européenne. L'Union européenne, justement, qui a sa propre lecture de 1989. Rappelez-vous, Thomas, le violoncelle de Rostropovitch, au pied du mur ébréché, la liberté retrouvée, la promesse de lendemain fraternel. Lecture propre à l'Europe de l'Ouest, absolument pas à l'Europe de l'Est. Et c'est de cette ambiguïté que vient à l'Est, elle nourrit en tout cas cette ambiguïté, le populisme anti-européen.
Merci Marie-Pierre Véraud et Louise Baudet. Et puis je précise que vendredi à 17h, grand reportage, le magazine de la rédaction de France Culture sera justement consacré à l'Allemagne 30 ans après la chute du mur. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Alternance d'éclaircies et de nuages, parfois porteurs d'averses. Les températures, elles afficheront entre 11 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.